VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, au micro Morgane Guiriec et Anne Albertson. Bienvenue à l'édition du vendredi 5 juin 2015. À la une ce matin,
crise électorale au Burundi, l'ONU demande le désarmement rapide des groupes de jeunes affiliés aux partis politiques.
Nouvelle violence dans le nord du Mali, 3 civils ont été tués par des hommes armés lors d'attaques distinctes.
Des attaques ont également été signalées hier soir dans le nord-est du Nigeria. Il est fait état de 2 explosions à Maïdougouri et à Yola. Au moins 4 soldats et 2 civils ont été tués.
Lutte contre le groupe État islamique. Les combattants de l'organisation djihadiste étaient à 500 mètres de la ville de Asaké hier en Syrie. Et comme tous les matins, vos rendez-vous habituels, la Minute Éco et les sports. Mais d'abord, le journal.
Crise électorale au Burundi, l'ONU demande le désarmement rapide des groupes de jeunes affiliés aux partis politiques, mesure qui favoriserait des scrutins pacifiques. Cet appel au désarmement fait écho aux recommandations des leaders de la région. Saïd Djinnit, l'émissaire de l'ONU au Burundi, a confirmé aux 15 pays membres du Conseil de sécurité que les partis d'opposition étaient prêts à reprendre les discussions avec le gouvernement.
Rappelons que le Burundi traverse une période de troubles depuis que le président Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis 10 ans, a décidé en avril de briguer un troisième mandat, provoquant des manifestations sanglantes. Une quarantaine de personnes sont mortes dans ces violences et plus de 90 000 civils ont fui vers des pays voisins. Les élections législatives prévues vendredi ont été donc reportées, mais l'élection présidentielle est toujours prévue le 26 juin en dépit d'appels pour un report jusqu'au moins la mi-juillet.
Nouvelle violence dans le nord du Mali. 3 civils ont été tués par des hommes armés lors d'attaques distinctes. D'après l'AFP, les élus locaux et une source sécuritaire n'ont pas été en mesure de dire s'il s'agissait de l'œuvre de bandits ou de groupes armés. Un civil a été assassiné mercredi non loin de la localité de Gundam, près de Tombouctou, par des hommes armés qui circulaient en véhicule, a déclaré une source municipale. Une source de sécurité étrangère a également annoncé la mort par balle jeudi au nord de Tombouctou d'un autre civil d'une quarantaine d'années. Il a été abattu par des hommes armés à une trentaine de kilomètres au nord de Tombouctou, a-t-elle précisé. Par ailleurs, un transporteur routier de Ménaka, enlevé lundi par des hommes armés, a été retrouvé mort mercredi, a affirmé à l'AFP un responsable municipal.
La coordination des mouvements de l'Azawad, rébellion à dominante Touareg, a pour sa part accusé dans un communiqué les milices pro-gouvernementales et leurs comparses du Moudjahou de l'avoir enlevé. Et c'est dans ce contexte qu'une source proche de la médiation algérienne a indiqué que la CMA, qui mène depuis la semaine dernière des consultations à Alger, doit signer aujourd'hui un accord sécuritaire en vue de rétablir le cessez-le-feu.
Des attaques ont également été signalées hier soir dans le nord-est du Nigeria. Il est fait état de 2 explosions à Maïdougouri et à Yola. Au moins 4 soldats et 2 civils ont été tués. À Maïdougouri, capitale de l'état de Borno, 2 habitants ayant requis l'anonymat ont expliqué à l'AFP qu'un camion transportant du bois a explosé près d'une caserne vers 17h temps universel. L'explosion de Yola s'est produite dans un marché très fréquenté de la ville, faisant au moins 2 morts et plusieurs dizaines de blessés.
Et c'est dans ce contexte de violence dans son pays que le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, s'est entretenu hier à N'Djamena avec son homologue tchadien, Idriss Déby Itno. Le chef de l'État nigérian était venu remercier le Tchad pour sa contribution à la lutte contre les islamistes de Boko Haram. Le chef de la diplomatie tchadienne, Moussa Faki, a donné lecture du communiqué conjoint ayant sanctionné la rencontre.
Les deux chefs d'État ont fermement condamné les actes terroristes et inhumains commis sur les populations civiles nigérianes et celles des pays voisins par des éléments de Boko Haram. Ils ont relevé qu'au nombre des conséquences de l'insécurité ainsi créée figurent les pertes en vies humaines, la destruction des biens et le déplacement des populations dans la région du bassin du lac Tchad. Les deux chefs d'État ont clairement exprimé leur volonté et engagement de collaborer à tous les niveaux pour rendre plus efficace le combat commun qu'ils mènent contre la secte Boko Haram et de ramener ainsi la paix et la sécurité indispensables au développement de la région. Le président Muhammadu Buhari a exprimé à son frère et ami le président Idriss Déby Itno sa reconnaissance pour le rôle déterminant joué par son pays dans l'affaiblissement de cette secte. Saluer la mémoire des valeureux soldats tchadiens tombé sur le champ d'honneur et présenté ses condoléances à leur famille.
Le chef de la diplomatie tchadienne, Moussa Faki, extrait fourni par FM Liberté, notre station partenaire à N'Djamena.
Le Ghana observera un deuil national de 3 jours à la suite de l'explosion qui a tué 90 personnes dans une station-service d'Accra et aussi des inondations dévastatrices qui ont fait une 60aine de morts dans le pays, les précisions de Lionel Gaïma.
S'adressant à la presse hier soir, le président John Dramani Mahama fait savoir que le gouvernement allouera une enveloppe de 12 millions de dollars au secours et aux opérations de reconstruction. C'est à partir de lundi que le pays observera le deuil national de 3 jours en mémoire de victimes de l'incendie et des inondations, a précisé le chef de l'État ghanéen. Le président Mahama, que cite l'AFP, a promis des mesures préventives à la suite de cette catastrophe pour éviter de nouvelles inondations, un problème récurrent dans la région. Un malheureux concours de circonstances a contribué à la tragédie de mercredi soir à Accra. Alors que plusieurs personnes s'étaient réfugiées dans la station-service pour s'abriter d'une pluie diluvienne, les eaux d'inondation ont transporté une nappe de carburant de la station vers une maison voisine qui était en feu, entraînant alors une immense explosion et un incendie généralisé.
En République démocratique du Congo, 46 civils ont été condamnés pour violences sexuelles dans le district de l'Ituri. Des précisions avec Eddy Sango.
Les condamnations ont été prononcées à l'issue de 3 semaines d'audiences foraines qui se tiennent dans des coins reculés. 65 prévenus ont comparu lors du plus grand cycle d'audiences de ce genre, organisé depuis la nomination d'une représentante spéciale pour la lutte contre les violences sexuelles. Ils étaient tous accusés d'agressions sexuelles ou de viols commis en 2014 et début 2015 à Ituri, district de la province orientale dont Bunia est le chef-lieu. Le président du tribunal, Alphonse Wonga, a annoncé que 46 accusés ont été condamnés et 13 acquittés. 6 dossiers ont été renvoyés pour approfondissement de l'instruction. Les peines prononcées vont de 7 à 15 ans de prison ferme, selon M. Wonga. Le district de l'Ituri, dans la province orientale de la RDC, a été le théâtre d'un conflit interethnique de près de 10 ans dans la décennie 90. Les milices ethniques, dont certaines sont encore actives, même si le conflit a presque été apaisé, sont accusées d'enrôler des enfants. Des leaders de certains de ces groupes, transférés à la Haye, comparaissent à la Cour pénale internationale. Mais la zone est encore caractérisée par des violences sexuelles récurrentes perpétrées dans certains cas par des civils.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Lutte contre le groupe État islamique. Les combattants de l'organisation djihadiste étaient hier aux portes de Asaké en Syrie. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, cité par l'AFP, plus que 500 mètres les séparent de cette ville, dont le contrôle est partagé entre le régime de Bachar al-Assad et les forces kurdes, chef-lieu d'une province du nord-est du pays. En Irak, une frappe de cette coalition menée par Washington a détruit l'un des plus importants sites de fabrication de voitures piégées de l'État islamique, arme de prédilection de l'organisation extrémiste, tandis que des attentats djihadistes contre 2 bases militaires ont été déjoués.
Et le ton monte en Ukraine. Kiev met en garde contre la menace d'une guerre totale avec la Russie accusée de soutenir la rébellion dans l'Est séparatiste, annonce qui intervient au lendemain d'intenses combats qui ont fait 26 morts.
Et corruption à la FIFA, une coalition d'organisations anticorruption a estimé hier que le scandale qui éclabousse la FIFA n'aurait jamais été possible sans la complicité des grandes banques internationales, notamment américaines, Bagassikoura.
Le degré de corruption n'a été possible qu'avec la complicité du système bancaire international. À propos de Eric Lecomte, cité par l'AFP, il est le directeur de la coalition d'organisations Jubilee USA qui lutte contre la corruption et l'opacité financière. La justice américaine a inculpé 14 responsables de la FIFA et du marketing sportif dans un dossier comptabilisant 150 millions de dollars de malversations. Un ex-responsable de l'organisation, Chuck Blazer, a par ailleurs directement reconnu le versement de pots de vin en marge de l'attribution des mondiaux 98-2010. Selon l'ONG Jubilee USA, 26 banques sont mentionnées dans l'acte d'accusation, dont JP Morgan Chase et Citigroup, et certaines d'entre elles ont permis à ces fonds de circuler dans le système financier américain. Il n'y a qu'un seul cas où une banque a rejeté une opération qu'elle jugeait suspecte, a souligné un communiqué de l'organisation. Aucune banque américaine n'a toutefois été mise en cause par la justice américaine dans le scandale, mais selon toujours Jubilee USA, les enquêteurs examinent encore si l'une d'elles a enfreint la loi.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Idrissa Seydoudia.
Les prix des principaux produits alimentaires de base ont de nouveau reculé en mai, frôlant leur plus bas niveau en 6 ans suite à la baisse sensible des cours des céréales, indique la FAO. Dans un rapport, cette baisse s'explique selon elle essentiellement par des perspectives de récolte favorables pour cette année. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, en collaboration avec la Société nationale d'électricité, organise une mission de prospection et de recherche de partenariats d'affaires à Taïwan du 18 au 27 juillet prochain, a appris hier l'agence APA. La participation au voyage est ouverte prioritairement aux entreprises évoluant dans le secteur de l'énergie, électricité et énergie solaire. 80% de la population burkinabé n'a pas accès à l'électricité. Les travaux d'extension et de modernisation du port en eau profonde de Limbé, dans le sud-ouest du Cameroun, vont reprendre avec l'implication de la Corée à travers le consortium camerouno-coréen LIPID, a appris jeudi l'agence APA de sources concordantes. Les travaux qui devraient s'achever en 2017 devraient permettre à cette infrastructure de faciliter entre autres l'exportation des produits agricoles vers le Nigeria voisin pour plus de 50 000 tonnes par an. L'OCDE a nettement abaissé mercredi ses prévisions de croissance mondiale pour 2015 et 2016, sur fond notamment de contraction aux États-Unis et de ralentissement en Chine, et appelé à accroître les investissements pour stimuler l'économie mondiale. Elle table désormais sur 3,1% en 2015 et 3,8% en 2016, contre 4% et 4,3% attendus en mars dernier.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Idrissa. Plein feu sur les stades, les sports avec Timothée Donangmaï. Bonjour Timothée.
Bonjour Morgane.
Coupe du monde des moins de 20 ans en Nouvelle-Zélande.
Jeudi, l'Allemagne et le Brésil ont validé leur billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Si la National Mannschaft a aisément disposé de l'Ouzbékistan 3-0 à Christchurch, le Brésil, lui, a connu davantage de difficultés pour se défaire de la Hongrie 2-1. La grosse surprise de la journée est à mettre au crédit des Fidji. Vainqueurs 3-0 du Honduras, les Océaniens ont obtenu, avec panache, leur tout premier succès dans une compétition FIFA. Les insulaires ont fêté cet événement historique dans l'euphorie. Ils vont cependant devoir rapidement se reconcentrer, car la troisième et dernière journée pourrait même leur donner l'occasion d'accéder aux huitièmes de finale. Enfin, le Nigeria a largement dominé la Corée du Nord dans le groupe E, 4-0. Les Asiatiques attendent donc toujours leur premier succès en Coupe du Monde de moins de 20 ans.
Encore des révélations sur la FIFA.
La fameuse main de Thierry Henry contre l'Irlande n'en finit plus de faire polémique. La FIFA a confirmé jeudi avoir payé la fédération irlandaise pour éviter des poursuites en justice après la qualification de la France au Mondial 2010 grâce à ce geste litigieux. Un peu plus tôt, John Delaney, président de la FAI, avait déclaré « Nous avions trouvé un accord, c'était jeudi et le lundi suivant, tout était signé, c'était un paiement à notre fédération » pour que nous ne portions pas l'affaire devant la justice. Il a cependant refusé de confirmer ou d'infirmer le montant, 5 millions d'euros selon les médias, en mettant en avant une clause de confidentialité.
Tournoi de tennis de Roland-Garros.
L'Américaine Serena Williams a défait la Suissesse Baczynski en 3-7 après avoir concédé le premier, 4-6, 6-3 et 6-0. La Tchèque Lucie Safarova a réalisé un rêve à 28 ans en se qualifiant pour la première fois en finale d'un tournoi du Grand Chelem après son succès contre la Serbe Ana Ivanovic. Victoire poussive 7-5, 7-5 en 1h52 dans un match où la crispation a pris le pas sur la qualité de jeu. À suivre ce vendredi chez les hommes, le Français Joe Wilfried Tsonga contre le Suisse Stan Wawrinka et le Serbe Novak Djokovic contre le Britannique Andy Murray. Et puis la grande finale NBA, premier match cette nuit, Morgan.
Cleveland s'est incliné face aux Golden State Warriors, 100-108.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec en votre compagnie. On enchaîne sur la partie magazine de notre émission. Au Burundi, les élections législatives et locales, déjà reportées une fois, n'auront donc pas lieu ce vendredi. Conformément aux recommandations des chefs d'État de la sous-région, un report de 6 semaines jusqu'à la mi-juillet est plus que probable. Si la pression de la rue semble étouffée au Burundi, au-delà des frontières, la communauté internationale, européens, américains en tête, ne désespère pas de faire renoncer au président Nkurunziza une quête d'un troisième mandat. Pression inutile, comme nous l'explique étrangère Willy Nyamitwe, Nicolas Pinault a joint le conseiller en communication à la présidence burundaise.
Ce débat autour du mandat du président actuel, que les uns qualifient de troisième et d'autres qualifient de deuxième élu au suffrage universel, eh bien, a été clôturé à Dar es Salaam. Et maintenant, cette question, contrairement à une certaine opinion, c'est une question qui a été clôturée à Dar es Salaam. Ce n'est pas une question taboue. Vous savez, dans un régime démocratique, les gens continuent à discuter de toutes les questions, les gens continuent à dialoguer. Alors si l'une ou l'autre personne veut avoir des éclaircissements sur un point ou un autre, ce n'est pas exclu. Mais sur la table et discuter sur le fond en ce qui concerne la candidature ou non de l'actuel président de la République, cela a été clôturé à Dar es Salaam.
Concernant le nouveau calendrier que tout le monde attend, quand pensez-vous aboutir à la publication de ce nouveau chronogramme électoral ?
Ce qui est sûr et certain, pour la présidentielle par exemple, elle peut se tenir 2 mois avant échéance ou au plus tard 1 mois avant échéance. L'échéance, c'est le 26 août. Donc le 26 août, un nouveau président de la République devra être investi et devra prêter serment devant les deux chambres du Parlement. Donc avant tout ça, il faut que les élections communales et des députés et les sénatoriales soient tenues pour que le président soit aussi élu au suffrage universel direct et prête serment le 26 août prochain.
Est-ce qu'on pourrait coupler les élections présidentielles et locales ?
Le code électoral dit que les élections communales et législatives se tiennent avant les élections présidentielles. Donc ce qui est sûr et certain, les élections de députés et de conseils communaux devront se tenir avant l'élection présidentielle. Qu'on les couple ou qu'on les sépare, eh bien cela dépendra de l'interprétation technique que nous apportera la Commission électorale nationale indépendante, qui est un organe technique qui est chargé de s'occuper de toutes les questions en rapport avec les élections au Burundi.
Willy Nyamitwe, conseiller en communication à la présidence burundaise. Nous partons maintenant au Niger. Les opérations de recensement en vue de l'établissement d'un fichier électoral pour les prochaines élections ont débuté mercredi. Pour collecter les données sur les Nigériens en âge de voter, plus de 15 000 agents sont déployés dans le pays, mais aussi dans certaines ambassades à travers le monde. Notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa, a suivi 2 équipes. Voici son reportage.
Pendant 3 semaines, les équipes d'agents recenseurs vont faire le porte-à-porte pour enregistrer les données des citoyens en âge ou en droit de voter. Dans le premier arrondissement communal de Niamey, où se situe la résidence du chef de l'État, une équipe est passée là-bas à la satisfaction du premier des citoyens nigériens, Issoufou Mahamadou.
Je viens de me faire recenser, et ma famille aussi. Le recensement est une phase importante dans le processus d'organisation des élections dans notre pays. Nous souhaitons que les prochaines élections soient transparentes, libres, honnêtes et crédibles. Et une des bases, c'est le fichier électoral. C'est pour dire combien nous attachons de l'importance à cette première phase du processus, à cette phase de recensement. Je lance un appel à tous les Nigériens, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, pour qu'ils se fassent recenser.
Et j'espère que tout ce processus va être conduit dans la transparence.
Un peu plus loin, dans le deuxième arrondissement communal, au quartier Boukotikat, ce père de famille est tout aussi réjoui après le passage de l'équipe d'agents recenseurs.
Alhaji Abdou Amaynassara, habitant du quartier Boukotikat, enseignant de formation. Je viens d'être recensé, j'ai l'impression d'être le premier. Et je suis très content. Vraiment, c'est un recensement qui a l'air de bien démarrer. Et je souhaite vraiment à l'équipe une bonne suite. Et que tout le peuple nigérien soit recensé pour que notre démocratie soit en avant. Parce que celui qui n'est pas recensé, il n'a pas accompli son devoir de citoyen. Ça veut dire qu'il ne va pas voter, ça veut dire qu'il n'aura pas de carte. Alors là, il a perdu sa citoyenneté au moment surtout des élections.
Il est prévu au cas où les équipes passent sans trouver dans les familles des citoyens en âge de voter un ratissage après l'opération, comme le rassure le responsable régional au niveau de Niamey.
Ça, c'est une organisation même que les agents recenseurs, lors de la formation, j'ai entendu cela. Quand ils constatent l'absence d'une personne, ils vont revenir encore pour constater sa présence la nuit. Je les ai entendus parler de vive voix, ça. Et dit, mais vraiment, ça nous encourage quand même de compter sur ces gens-là. Donc, ce qui veut dire qu'eux-mêmes, ils ont l'intention, en tout cas, de ne oublier personne.
Abdul Razak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
C'est aujourd'hui la Journée mondiale de l'environnement. Cet événement annuel, promulgué par le PNU, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, a pour but de susciter plus d'actions écologiques et d'attirer l'attention du public sur les problèmes environnementaux. Et en raison du réchauffement climatique, le continent africain est particulièrement visé. Je vous propose de partir au Mali, où les défis environnementaux sont nombreux. Dans ce pays, notamment, les eaux usées se déversent encore dans les fleuves et le traitement des déchets, des sacs plastiques par exemple, est loin d'être résolu. En 2012, le gouvernement a pourtant adopté une loi interdisant l'usage des sachets en plastique, une mesure qui est restée lettre morte. Et de même, la gestion des eaux usées, puisque des partenaires avaient proposé l'installation des stations d'épuration. Mais à ce jour, le fleuve continue d'être pollué, comme si de rien n'était, nous dit Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako.
Dans le cadre de la protection de l'environnement, rares sont les documents, chartes et conventions que le Mali n'a pas adoptées. Mais leur mise en œuvre pose toujours problème. L'UNESCO, en collaboration avec le gouvernement malien, voulait installer des stations d'épuration d'eau usée. Aline Daou, du bureau multi-pays de l'UNESCO au Mali.
C'est de pouvoir faire en sorte que les populations puissent bénéficier d'une eau plus traitée. Notre rôle, c'est de faciliter, d'identifier les besoins, d'identifier des partenaires également qui sont intéressés et mettre en place des mécanismes privé et public pour que les populations puissent en bénéficier. Notre rôle également est de faire en sorte que tout ce qu'il y a comme volet transformation sociale soit un des clés de l'UNESCO pour que nous puissions quand même prouver notre bonne foi et notre engagement auprès des États membres de l'UNESCO.
En plus de l'installation des stations d'épuration d'eau usée, une étude avait été financée par la BAD en 2010 pour faire le curage des caniveaux de la capitale malienne. Mais de nos jours, l'insalubrité a gagné du terrain partout.
Par rapport à la mise en eau de 2 ou 3 stations d'épuration, il s'agit de la station d'épuration de Sotiba. Et ensuite, il y a la station d'épuration des eaux usées domestiques à Mopti. Et ensuite, il y a la station du Pongé. Le curage des collecteurs et l'aménagement des collecteurs. Et ce schéma, dans sa mise en œuvre, va prendre en charge toutes les eaux usées de Bamako. L'étude a été financée par la BAC.
Au Mali, on met tout dans les sachets plastiques. Il a même remplacé les paniers de la ménagère, car les femmes utilisent les sachets comme emballage. Mais son usage a des conséquences immenses pour l'environnement et les animaux.
Peut-être à beaucoup, les gens ne mesurent pas l'ampleur du phénomène, mais allez-y à l'intérieur. Vous vous rendez compte que les espaces cultivables sont complètement envahis et que chaque année, c'est des milliers de pâturages de moutons, de bœufs qui en mer de la consommation de ce plastique pour des paysans qui n'ont pas d'autre revenu que leur terre et leur bétail.
Il y a des mendiants, il y a des jeunes mendiants aujourd'hui, quand ils arrivent dans des carrefours, des ronds-points, dans le marché, il y a des jeunes qui ne vivent que de vendre des sachets de 50 à 200 francs. C'est l'eau en sachet aujourd'hui qui est devenue l'eau potable le plus pratique et le plus facile à avoir aujourd'hui.
Et pourtant, avant la crise, l'Assemblée nationale a adopté une loi interdisant l'usage et la vente des sachets plastiques comme emballage. Mais cette loi, comme tant d'autres, n'ont pas été appliquée à cause de la crise de 2012 au nord du Mali, qui a eu pour conséquence le coup d'État de la même année. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Aux États-Unis, l'enregistrement et la sauvegarde des données téléphoniques sera désormais effectué exclusivement par les compagnies de télécommunications privées. La National Security Agency, NSA, est écartée de cette tâche. C'est ce que stipule le Freedom Act, qui remplace le Patriot Act, avec vocation pour la nouvelle législation de protéger la vie privée des Américains. Les explications avec Chika Kanyori, éditeur du magazine Transatlantique au Canada.
La nouvelle loi, en fait, elle a gardé une bonne partie de principes de l'ancienne, mais on sait que ce qui a été le plus discuté, c'est quand le peuple américain avait découvert que le gouvernement, finalement, gardait ses communications téléphoniques et sur Internet, quoi, toutes les télécommunications. Ça, c'était la découverte avec l'agence Snowden qui est réfugiée aujourd'hui à Moscou. Disons que la nouvelle loi, c'est que ces informations-là vont rester plutôt aux entreprises de technologie.
L'opinion ne semble retenir que la surveillance des données téléphoniques. Oui. Y avait-il autre chose dans la loi de 2001?
Oui, il y avait beaucoup d'autres choses pour la surveillance des terroristes, même les systèmes de drones et autres qui aujourd'hui font rage et tout date de ce moment-là. Les États-Unis étaient complètement dépassés, ce qu'on peut dire, parce que depuis Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, c'était la première fois, en fin de compte, le 11 septembre 2001, que les États-Unis ont été directement attaqués. Le gouvernement était dépassé, il a pris beaucoup de mesures, dont certaines souvent, peut-être qu'elles n'étaient pas les meilleures, mais il n'y avait pas de choix. Quoi.
Alors on craignait un bras de fer sur ce projet de loi, le Freedom Act, mais il est passé comme lettre à la poste seulement en 48 heures. Pourquoi ça s'est passé comme ça selon vous?
Il y avait déjà eu un arrangement entre les républicains et les démocrates. Et comme on l'a souvent dit, il y a des questions sur lesquelles tous les Américains s'entendent, disons la classe politique, c'est la sécurité de l'État et la liberté. Donc il a fallu trouver une façon, même quand on sait que les républicains n'aiment pas vraiment faciliter la tâche au président Obama, mais il n'y a personne chez les républicains qui voudrait passer pour avoir empêché des mesures qui auraient pu éviter qu'il y ait des attentats au pays. Ce qui était déjà très remarquable à la Chambre des représentants qui est dominée par les républicains. Ils avaient déjà eu un compromis avec les démocrates et le président.
Pourquoi les opposants à la National Security Agency ne désarment-ils donc pas puisque la cause était entendue?
Il y a quand même un groupe de gens qui croient que tout ça n'est pas nécessaire. Il y en a qui pensent que ça n'assure pas plus la sécurité. Il y a beaucoup de gens qui disent que jusqu'à présent, ils ne sont pas convaincus que ces méthodes ont empêché des attentats. On les trouve surtout dans la gauche américaine, mais on en trouve aussi presque à l'extrême droite, chez les républicains, comme celui qui a failli faire annuler la loi. Donc c'est les libertariens qui ne croient pas en l'État, quoi. Qui croient que les libertés individuelles sont souveraines presque, mais il faut quand même qu'ils se rendent compte qu'on ne peut pas avoir des libertés quand il n'y a pas d'État pour les garantir, sinon ça serait le chaos total.
Chika Kanyori, éditeur du magazine Transatlantique, joint à Montréal par Jean-Roger Billon.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music. Les anciens et nouveaux morceaux de la musique africaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
La mise en onde était assurée par Anne Albertson, Morgan Guerriec à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.